Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Aujourd'hui, en compagnie de la reine du roman noir français, Anne-Laure Kerr. Anne-Laure Kerr, qui est sur tous les fronts depuis le succès de son précédent roman La Daronne, édité en 2017 et qui a été adapté au cinéma. D'ailleurs, on peut voir le film en ce moment avec Isabelle Huppert dans le rôle titre. Et depuis le succès de La Daronne, Anne-Laure Kerr est très sollicitée. Elle est par exemple la scénariste d'une bande dessinée qui est sortie il y a à peine deux mois, Mal au sol Beach, aux éditions La Veltinière. Et son dernier roman, Richesse oblige, publié en mars, c'est-à-dire en plein confinement, mérite qu'on y revienne. Au 19e siècle, les riches créaient des fortunes et achetaient même des pauvres afin de remplacer leurs fils pour qu'ils ne se fassent pas tuer à la guerre. À partir de là, Anne-Laure Kerr campe un personnage et une histoire, celle toute singulière de Blanche de Rigny. Anne-Laure Kerr est l'invité du Réveil culturel aujourd'hui.
Le Réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Anne-Laure Kerr.
Bonjour.
Avocate pénaliste, avant d'être romancière, vous avez déjà quelques romans, vous aviez déjà quelques romans et même un court-métrage derrière vous quand vous publiez en 2017 La Daronne, un succès en librairie qui va élargir considérablement le cercle de vos lecteurs et va vous ramener des prix et même des propositions d'adaptation au cinéma. Mais là, on parle de votre tout dernier roman, toujours édité chez Métellier. Et on va parler, si vous voulez bien, d'abord de Blanche, puisque c'est elle, c'est le prénom de votre héroïne. C'est une jeune fille qui est née sur une île de la côte bretonne, pas du tout sous une bonne étoile. Mais cette fille de pêcheur va découvrir qu'elle est peut-être une potentielle héritière d'une très riche famille. D'où l'enquête généalogique qui va nous faire remonter 150 ans en arrière, et jusqu'à la guerre de 1870. Et d'une méthode qui, à l'époque, était très répandue chez les bourgeois et les propriétaires terriens, c'est-à-dire acheter des pauvres pour qu'ils aillent à la guerre à la place de leurs fils. Je dois avouer que j'ai découvert cet épisode en lisant votre roman, Anne-Laure Kerr. Alors, mais parlons d'abord de Blanche de Rigny. Elle est fille de pêcheur, on l'a dit, elle est issue d'un milieu modeste, mais en plus, elle est handicapée.
Oui, bah ça change. Elle est... anticapitaliste, femme, écolo et handicapée comme héroïne, ça envoie le bois, non ? C'est pas fréquent.
Et oui, pour elle est clore la liste, elle est chieuse historique.
Elle est chieuse historique.
Entre guillemets, qu'est-ce que vous appelez par chieuse historique ?
Une chieuse historique, c'est dans un univers, dans une petite communauté, comme une île par exemple, pour bien connaître la vie sur les îles, puisque c'est un endroit de réclusion où j'ai été pendant 10 ans, pour écrire, y en a toujours un par génération qui fait chier tout le monde. Et quand il y a quelque chose qui se passe,
on sait d'où ça vient.
On dit, mais ça doit être machin. C'est évident, ça ne peut être que lui ou elle. Et donc la chieuse historique, c'est elle. Et d'ailleurs, elle a eu un gros accident de voiture pour avoir, une fois de plus, fait un truc qui consiste à conduire des voitures bourrées sur l'île parce que les clés pendent sur le contact des voitures et que tout le monde peut s'amuser. Et c'est vrai que les gamins des îles, même à 8-9 ans, piquent les voitures pour aller faire un tour. Et donc, elle a fait ça, elle a terminé dans le vide.
Et cette Blanche de Rigny, elle est notre contemporaine. Hein. Je dis ça parce que votre roman va nous ouvrir une autre piste, celle de peut-être son aïeul. Et là, on est dans une autre France, un autre contexte, même si toute la subtilité de Richesse oblige, c'est de nous rappeler que les choses n'ont pas tant évolué que ça.
C'était un d'abord mon roman est arrivé en deux temps. Un jour j'avais lu dans un livre d'Octave Mirbeau qui est Sébastien Roch. D'ailleurs je reprends ce passage dans mon roman. C'est un garçon qui est arrivé des malheurs et il est dans une petite ville et il voit son père. Enfin il entend son père derrière la porte de l'hôtel de ville avec un maquignon d'hommes. En train d'essayer d'acheter un homme et de négocier sou par sou pour le payer le moins possible. Et il dit cet homme je l'aime, il va mourir à ma place, je suis trop lâche pour y aller, j'y vais, j'arrête ce marchandage immonde. Et puis il n'y va pas. Et je me suis dit c'est quoi acheter un homme ? Et tout d'un coup ça m'a vachement intéressé, donc j'ai commencé à chercher. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est une institution qui a vraiment concerné toute la France, pendant quasiment 100 ans, entre 1812 et 1871, les bourgeois, les propriétaires terriens, les nobles, achetaient des pauvres pour remplacer leurs fils qui tombaient au sort. C'est-à-dire, il y avait une conscription par tirage au sort, et quand on tirait un mauvais numéro, eh bien, on devait partir, et on avait le droit d'acheter un homme pour ne pas partir et que l'homme parte à sa place. Voilà.
Pourquoi on ne parle pas de ça dans les manuels d'histoire? Est-ce que c'est parce que la Grande Guerre qui va advenir après va prendre toute la place ou...
Je pense que c'est ça, parce que pour ce qui est de cette époque-là, la guerre de 70, on a quelques bribes quand même dans la tête. Gambetta qui part en ballon, le siège de Paris, les gens qui mangent des éléphants, des petites histoires comme ça, des anecdotes. Mais c'est vrai que la grosse boucherie de la guerre de 14 a complètement éclipsé cette guerre. Et en plus de ça, on ne l'a pas appris à l'école. Et quand j'ai appris que justement, quand la Prusse a battu l'Autriche à Sadova en 1869 et qu'elle a gagné en une bataille et qu'elle fonçait sur la France comme une locomotive, le cours du pauvre s'est mis à s'envoler. Et ce paradoxe, à savoir que le cours du pauvre s'envole et qu'un pauvre coûte de plus en plus cher et qu'on trouve nulle part des pauvres à acheter, ça m'a paru tellement drôle, comme je suis quand même extrêmement mauvais esprit, ça m'a paru tellement drôle que j'ai voulu explorer cette veine. Et j'ai découvert des trucs, mais incroyables, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est vrai que la France a totalement oublié. Les gens, chacun dans sa famille, a soit une personne qui s'est vendue, soit une personne qui en a acheté une autre.
Alors du coup, vous vous éloignez des codes classiques du roman noir, parce que l'enquête en question, ça va être l'enquête de Blanche de Rigny, qui va se demander si elle ne peut pas être une héritière potentielle de cet Auguste de Rigny, dont on suit par ailleurs, parallèlement, les aventures en 1870.
Auguste de Rigny, c'est un gentil garçon complètement à la ramasse, qui fait partie de ces jeunes bourgeois qui sont perdus dans l'aventure communaliste. Mais en tous les cas, elle fait son enquête généalogique, mais elle ne fait pas que ça.
Et puis tout d'abord, elle a le droit de faire cette enquête, parce que quand on s'appelle Blanche de Rigny et qu'on n'a absolument pas le physique de son nom, on est en droit d'enquêter, n'est-ce pas? Elle est l'arcaire.
Oui, oui, mais c'est surtout dans des petites communautés, quand on est accepté dans une communauté, par exemple sur une île. Si vous êtes accepté, les gens qui vivent sur les îles sont toujours prompts à dire « lui, c'est un étranger » alors qu'il est là depuis 4 générations. Il y a 4-5 familles sur les îles et de la mer d'Iroise et tout le monde porte à peu près le même nom. Et elle s'appelle de Rigny, pourtant, elle est vraiment endémique. Donc elle s'est jamais posé la question pourquoi, et puis sa famille a toujours évacué ça en disant à l'époque où le chemin de fer est arrivé jusqu'en Bretagne, il y a des tas de Bretonnes qui sont parties chercher du travail à Paris, elle s'est fait engrosser, elle est revenue avec un gamin, quelqu'un a reconnu le gamin, voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça,
avec point. Une particule.
Voilà. Et puis mon héroïne Blanche se dit c'est quand même très curieux, elle connaît bien la littérature du 19e et pour avoir lu Pobouille, elle sait que jamais un noble aurait transgressé l'ordre social en reconnaissant le gamin d'une gueuse. C'est juste impossible. Donc il doit y avoir quelque chose de plus compliqué, parce que c'est juste impossible qu'une pauvre bretonne qui arrive à Paris pour servir dans une famille, alors qu'à l'époque, quand le fils de famille engrossait la bonne, on la jetait dehors et elle accouchait sous les ponts, c'est pas possible que tout d'un coup il y en a un qui s'appelle de Rigny. Donc voilà comment commence l'interrogation.
Et donc cette enquête qui va nous mener à une autre France, celle de 1870 et celle d'un certain Auguste de Rigny.
Et quand elle regarde par exemple les photos de son ancêtre, elle voit une femme très prospère qui pose devant son restaurant crêperie qu'elle a ouvert en 1872 après la guerre, qui s'appelle À la mouette gourmande, et elle a l'air d'une commerçante prospère. Comment elle a pu devenir une commerçante prospère? Tout ça sont des questions. Et donc c'est pour ça qu'elle fait une recherche et elle tombe sur des choses incroyables.
Mais elle a quand même cette arrière-pensée que peut-être elle pourrait devenir riche.
Tout à fait, parce que l'arbre généalogique, comme tous les arbres, c'est un petit arbre tordu avec pas beaucoup de branches, qui a poussé sur un sol ingrat. Donc il n'y a pas beaucoup de descendants.
On laissera les auditeurs, lecteurs, faire le lien entre l'histoire contemporaine de Blanche de Rigny, son enquête généalogique et l'autre personnage de votre roman, Auguste de Rigny. Mais parlez-nous, Anne Lorquer, de cette France-là de 1870 et de ce personnage incroyable. Il l'est, à bien des égards.
Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de reprendre des dialogues familiaux avec la langue d'autrefois, mais le contenu des dialogues, en fait, est extrêmement actuel. Et ces dialogues, je les ai pas inventés, je les ai trouvés en lisant. Enfin, c'est toute la masse de choses que j'ai lues pendant 30 ans qui me les a inspirées. C'est à l'époque, en 1870, donc avant la guerre de 14, les pauvres étaient envisagés par les bourgeois et par les riches en termes de race. C'est-à-dire, ils étaient des ivrognes, des bêtes, des gens qui frappaient leurs femmes, etc. Mais on ne disait pas que c'était la pression économique atroce qui pesait sur eux, qui les rendait comme ça. Ils étaient comme ça parce que c'est comme ça. C'était dans leur sang. Voilà. Et même à l'époque, par exemple, je prends un écrivain comme Henri Bauer, par exemple, qui est le fils non reconnu d'Alexandre Dumas, pas reconnu à l'état civil, mais il a toujours dit que c'était son fils. C'était un romancier, et c'était un romancier qui a été déporté en Nouvelle-Calédonie, vraiment très de gauche. Quand on lit ce qu'il écrit, il dit toujours, bon, donc il a des termes extrêmement pro-commune de Paris, mais d'un autre côté, vous lisez, pendant qu'il va à une réunion de toutes ces réunions pour faire la révolution communaliste, quand il va là-bas, il dit « Le cocher m'a préparé mes chevaux, ma bonne m'a fait mon linge, etc. » C'est-à-dire que le personnel qui le sert, même si c'est une personne qui a des idées extrêmement ouvertes et progressistes, quand même parle comme quelque chose de parfaitement normal de tous les gens qui le servent. C'est ça qui est étonnant. C'est un peu comme en Amérique du Sud aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont de gauche, avec des idées de gauche, mais ils ont la nana qui s'occupe de leur cuisine, mais ils ont celle qui s'occupe de leur gosse, et ils ont le gardien qui passe la tondeuse à gazon. Mais c'est quelque chose de parfaitement intégré socialement. C'est ça qui est dingue. Et Auguste est de cela, c'est-à-dire qu'il a de grandes idées révolutionnaires, mais d'un autre côté, partir à la guerre, c'est juste inenvisageable.
Donc, on revient à ce drôle de trafic. Enfin, quand je dis trafic, pas du tout. Tout était organisé pour que les riches puissent acheter des pauvres et les envoyer mourir à la guerre à leur place. Il y avait des rabatteurs, il y avait une administration pour ça, il y avait même, j'allais dire, la bourse de ces pauvres, parce qu'à un certain moment, il n'y en avait plus dans les villages des pauvres qui pouvaient aller mourir à la place des riches.
Bah, d'abord, ça a été d'abord on achetait son homme soi-même. Après, il y a eu tellement de trafic que la législation a changé. Quand un garçon naissait de la bourgeoisie, les parents l'assuraient. Il y avait une mutualisation du risque. C'est l'ancêtre des compagnies d'assurance, faut quand même le voir. Il y avait une mutualisation des risques et au moment où il tirait au sort, s'il tirait un mauvais numéro, la compagnie d'assurance payait remplaçant. Donc, il y a eu ces compagnies d'assurance et il y avait les maquignons. Et puis, à un moment, ça a été si terrible que, en fait, on payait l'État pour qu'il trouve un remplaçant à votre place quand vous tiriez un mauvais numéro. Et puis, en 1869, les pères de famille ont fait une telle pression sur l'Assemblée nationale qu'on est revenu à l'ancien système, c'est-à-dire que chacun devait trouver son pauvre. Il y avait des journaux d'annonces.
Trafic humain institutionnalisé.
Absolument, ça s'appelait, c'était des trafiquants de chair humaine. Enfin, à l'Assemblée nationale, il y avait que vraiment les partis de gauche qui étaient les seuls à parler de trafic de chair humaine. Mais sinon, la France était extrêmement libérale. C'était l'Empire et le triomphe de la bourgeoisie. Et tout le monde soutenait le remplacement militaire. Sauf les aristocrates qui disaient que la France allait dans le mur parce que vraiment, il fallait des militaires à la France parce que la conscription était générale en Prusse et que nous, on allait avec nos hommes qui étaient des soudards achetés à droite, à gauche par les familles bourgeoises. C'était une armée catastrophique. Donc, ils disaient, nous allons à la défaite.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
À bientôt, car la sainte espérance emplit nos cœurs en te disant adieu. En attendant l'heure de délivrance pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments où flottent leurs bannières semble porter le deuil de ton drapeau. France, entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau? Lorraine. Et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais.
Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. C'est une chanson de Gaston Villemer et Hippolyte Nazet pour les paroles et de Ben Taillou pour la musique, écrite en 1871 au lendemain de la guerre franco-allemande qui s'est conclue d'ailleurs par l'annexion de l'Alsace et la Lorraine au nouvel empire allemand. C'est une période qui est très présente à travers un des deux personnages principaux du dernier roman noir de Anne-Éleur Kerr, Richesse oblige. L'autre période, c'est la période d'aujourd'hui, et on aura compris qu'avec avec ce stratagème, vous allez dresser un parallèle entre deux époques pourtant très différentes.
Aujourd'hui, si vous n'épousez, si vous avez juste votre salaire, pas d'héritage, et si vous n'épousez pas une femme riche, eh bien vous n'avez rien. Et c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose, parce que même si on a un bon salaire, imaginons, allez, 2 500-3 000 euros par mois, 1 200, 1 300 euros sont consacrés à un loyer et le reste à manger. Il ne reste plus rien pour arriver à accéder à la propriété, accéder à autre chose. C'est ça le problème. C'est qu'on est exactement au même niveau qu'à cette époque-là. C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez est consacré à dépenser pour vivre, mais vous ne pouvez rien mettre de côté, vous ne pouvez pas accéder à autre chose que votre condition.
Donc on est revenu à la France des gueux du 19e siècle face aux nantis.
On va y aller tout doucement, parce que entre des écoles qui ne fonctionnent plus, des hôpitaux à l'agonie, une sécurité sociale à l'agonie, tous les services publics à l'agonie, il y a un moment où une généralisation des paiements par carte bancaire, ça a l'air de rien, mais il y a des gens qui peuvent pas ouvrir des comptes en France parce qu'ils sont trop pauvres. Tout ça fait que, oui, la France est en train de se couper progressivement en deux. Il y a ceux qui tirent la tête pour la maintenir hors de l'eau et puis il y a tous les autres qui coulent, quoi. Plus je vieillis, enfin normalement, en vieillissant, les gens s'embourgeoisent et deviennent de plus en plus de droite et égoïstes.
Alors, pour vous, c'est le contraire. Hein. Richesse oblige est votre livre le plus politique,
pour
le
moi,
plus militant.
Et ben, plus ça va, plus je deviens de gauche, en fait. C'est très, très étonnant comme je ne dois pas être la seule, en fait. Gauche et écolo. La course ce qu'on appelle la course du rat, c'est-à-dire essayer d'arriver au fromage le premier, tout ça. Pour moi, ça n'a plus aucune importance aujourd'hui. Compte tenu de ce qu'on laisse à nos enfants, qui est épouvantablement triste, en fait. Moi, j'ai des enfants qui sont en âge bientôt d'avoir eux-mêmes des enfants, et c'est triste de se dire que ces enfants se posent vraiment la question de savoir s'ils auront une descendance, parce que ils n'ont pas envie de souffrir de la peur de leurs enfants à eux qui n'arrivent ni à manger ni à vivre, quoi. Donc c'est une époque extrêmement sinistre où je trouve que la question elle n'est plus du tout à l'argent, à la course, à la propriété, tout ça n'a plus aucune importance en fait. Et si les êtres humains ne se mettent pas aujourd'hui à être solidaires, on n'aura plus que des pierres à manger dans très peu de temps.
Et comment vous regardez tout ce qui se passe en France et dans le monde aujourd'hui ?
Pour moi, c'est le soubresaut de la fin, enfin c'est le début de la fin qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ont extrêmement peur, parce que c'est la première fois depuis l'homme préhistorique, en fait, que l'être humain s'envisage demain comme plus sombre qu'aujourd'hui. Ce n'est jamais arrivé dans l'humanité. Dans l'humanité, on s'est toujours construit avec le progrès, le plus, le nouveau, le mieux. Mais on sait que ça n'est pas possible. Quand on reprend le 19e siècle, il y a eu la révolution industrielle. La révolution industrielle a permis également aux gens de s'enrichir. Mais comme la terre est épuisée, il n'y aura plus de révolution industrielle. Et plus, ça n'est plus possible parce que personne ne n'avale l'oxymore du développement durable. C'est absurde. Tout le monde sait que c'est du mensonge. Le développement, quand vous vous dites « oui, on va rouler avec de l'électrique », les batteries sont encore plus polluantes que le reste. Donc tout ça, il n'y a plus de solution. Et ça, c'est la première fois que l'humanité est confrontée à ce mur-là.
Il y a quand même quelque chose de positif dans votre livre, c'est le personnage de Blanche. ce portrait de Blanche que vous dressez, il est plutôt positif, progressiste, Allée Lorquer.
Oui, ben c'est ce que j'aimerais faire si elle exprime exactement mes désirs, si j'héritais de millions et de millions et de millions d'euros, parce que en fait c'est une famille très très riche dont elle porte le nom, mais riche comme c'est 1%, ces riches là quoi. Pouvoir changer le cours des choses comme l'ont fait pendant des siècles les pollueurs, les lobbyistes, pour faire voter des lois à la fois écocide, liberticide, on peut faire exactement la même chose avec de l'argent, mais dans l'autre sens.
Voilà, ça c'est le message positif, toi.
Ouais. Oui, bien sûr, mais qui va le faire, quoi ? Bah, il faut que j'hérite, mais de qui ?
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Merci Allée Lorquer. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Richesse oblige, et c'est édité par Métellier. On se retrouve, nous, demain à la même heure. Bonne matinée sur France Culture.